parce que je crois que c'est déjà. Enfin,
ça commence bien.
Je comprends mieux maintenant pourquoi.
Seigneur, merci pour
Fabrice a dit.
Bonsoir tout le monde.
Pas tout à fait.
Parce que merci pour son partage. Parce
que je vais faire un effort et je vous promets que je vais essayer de ne pas dormir cette fois.
Comment on prépare
ça? Je vous inviterai vraiment tout ça à lever vos mains.
Et puis j'ai reçu des choses.
Juste avant de commencer, si vous êtes d'accord, je vais continuer dans l'avancée de Fabrice et puis je vais prier avant d'entrer dans ce temps. Merci Seigneur pour ce temps, merci pour cette soirée, merci vraiment de bénir ce temps tous ensemble. Je te prie vraiment de nettoyer chaque de ses problèmes de la semaine, ses problèmes de la journée.
Même quand tu as parlé, il y a des, vraiment de la paix ce soir.
Merci de me donner l'occasion de mourir à moi-même encore ce soir. Je te prie de poser tes mots sur ma bouche et de dire ce que tu veux dire.
Et c'est comme si Dieu te remplissait.
Ouais, vraiment, Seigneur, donne à chacun l'assurance que même malgré les problèmes, malgré les soucis, que demain est un jour nouveau et que tu renouvelles et que tu es bon.
À Christ.
Bon, il faut dire que j'ai un mariage.
Merci Seigneur pour ce que tu as fait ce soir.
Les choses deviennent incroyables quand c'est prophétique, tout ça, on est en plein, il y a plein de mariages cette année, vous savez bien, hein, dans la semaine prochaine.
Alors on m'a demandé de raconter mon témoignage,
et en fait c'est ça,
et vraiment je le
rejette. Je vais être complètement transparent, d'habitude j'écris tout mot pour mot, et pour être sûr de vraiment rien oublier, cette fois je tente une nouvelle expérience.
Jésus, il est vraiment pressé que son épouse, elle arrive, quoi.
Donc excusez-moi d'avance.
Et donc il y a une, on est maintenant dans une succession de rendez-vous, vous voyez.
Pour ceux qui me connaissent,
c'est des rendez-vous divins.
Que
c'est de on est dans des rendez-vous avec le bien-aimé. Et ces rendez-vous s'accélèrent parce qu'il y a une accélération.
C'est vrai.
Et parce que
demain,
c'est les noces, quoi.
Plus, il y a toujours.
L'évangile, c'est la première sortie.
Pour ceux qui me connaissent, c'était
franchement joyeux. Certainement que Jésus, c'est comme un fou. À ces noces, quoi. La fin finale de l'histoire, c'est la noce de l'agneau. Donc, on est dans. Voilà. Il y a énormément de réjouissance devant.
Mon enfant.
En attendant, il y a la préparation.
Cool.
Que lui et je voulais vous dire qu'un mariage, ça se prépare.
Merci pour
spécialement du côté de la mariée.
Que tu mets
j'en sais quelque chose. Que j'ai vu Elisabeth de près, je peux vous dire. Voilà, cette préparation, elle est pour nous, l'épouse de Christ.
Voilà, nos parents,
on est en plein dans la préparation, mais ça passe par des séries de rendez-vous.
Si j'étais un peu le préféré.
Et dans ces rendez-vous, on apprend à connaître le bien-aimé.
Non, plus sérieusement, on apprend à connaître Dieu.
Et comme je retiens ce qu'on a dit, cultiver l'amour. Avec des séries de rendez-vous.
On allait à l'église le dimanche.
Et les luminaires même dans le ciel nous disent qu'ils sont là pour marquer des rendez-vous. Rendez compte, dans Genèse 1, les luminaires, les astres, sont là pour marquer des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous d'amour. C'est fort quand même. On a Dieu est amour, Dieu est le bien-aimé. Oui, même la création de le monde, quoi. Il y a des rendez-vous d'amour. Et alors, vous savez qu'il y a trois rendez-vous dans les fêtes bibliques. Ce sont des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous. Et toute la population d'Israël devait monter à Jérusalem pour ces trois grands rendez-vous dans l'année.
Je bénis.
Et alors, je vais vous dire une chose.
Jusque-là, ça allait. J'avais une relation avec Dieu qui était vraiment celle d'un enfant.
Elle n'en connaît que deux.
Et je bénis cette
est-ce que vous réalisez ça
très simple,
Dieu a décrété trois rendez-vous importants.
Existe, après, j'aime Jésus, hein, et voilà,
trois rendez-vous très importants.
Là, pas bien compliqué.
On parle d'un voile sur Israël, mais c'est évident qu'il y a aussi un voile sur l'Église. On n'en fait que deux. Et vous connaissez les trois.
Donc là, c'était un peu le choc des cultures. Je me suis rendu compte que
vraiment, il y a Shavuot, Pentecôte.
Des gens déjà qui croyaient pas en Dieu et que ça incluait
le jour le plus saint du calendrier hébraïque, Yom Kippour.
Je me suis rendu compte que tout le monde ne pensait pas forcément comme moi.
Par contre, il est très connu en Israël. Yom Kippour, tout s'arrête. Et il n'y a que les voitures d'urgence qui travaillent. Quoi.
Tout s'arrête.
C'est très impressionnant, il paraît, de vivre ça en Israël. Et puis l'église de France, tranquillement, passe complètement à côté. Et la dernière fête des tabernacles. Pareil,
donner ce pain récemment.
Ne croyez pas qu'il y a aussi un voile sur l'Église.
Demander à Dieu.
Mais
la sagesse,
ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans un temps où autant le voile sur Israël que le voile sur l'Église est en train d'être enlevé. On est dans un temps de révélation. Les voiles sont enlevés. Et ça, c'est extraordinaire. Et
donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment à tout
on est dans un temps de
pour l'éduquer.
Jésus dit je suis le chemin, la vérité et la vie.
Que vraiment,
et il nous appelle à un chemin de révélation, de rendez-vous en rendez-vous. Chaque année, en fait, est fait des bibles. Cette année, je peux vous dire, cette année 2018, c'est vraiment vraiment spécial. Parce que c'est les 70 ans d'Israël, parce que il y a une accélération du temps, parce que on sent dans l'esprit que c'est vraiment, vraiment spécial parce que tous nos repères sont enlevés.
Cet amour
et dans le naturel, les Israélites, ils devaient quitter leur maison, Dieu, leurs habitations, leurs habitudes, leur train-train de vie, leur boulot. Et hop, tout le monde montait à Jérusalem. Et bien nous, c'est pareil. On quitte
en ce moment, beaucoup parmi nous, je pense.
On est en train de perdre nos repères, on ne sait plus où on en est.
C'est la zone
à monter à Sion, à monter dans une autre dimension, à monter dans une nouvelle révélation de Dieu. On est tous appelés à monter, monte plus haut dans l'Apocalypse.
Donc voilà, jusque-là, c'était juste les
bêtises. On est tous appelés collectivement, en tant que Josué, à monter. Je peux vous dire, nous, on est quelques-uns à partir.
Je suis rentré vraiment au lycée, donc là, c'était un peu difficile pour moi, parce que les amis que j'avais, je ne les avais plus.
Mais le seul truc qu'on sait, que Dieu donne, c'est
avec et de force. C'est un temps de rendez-vous avant, c'est 4 jours positionnés. C'est un temps de rendez-vous. C'est un temps où le Seigneur veut travailler nos cœurs. C'est un temps où il veut se révéler à nous parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et la vérité, elle libère. C'est un chemin de révélation, un chemin où elle le connaître dans une plus grande amplitude.
Merci.
Un chemin où il va nous transformer aussi. Et on est aussi dans ces 10 jours qu'on appelle les 10 jours terribles, parce que c'est un jour, des jours où il met en lumière tout ce qui est encore
à
nettoyer, tout ce qui est à débarrasser, il met en lumière des tas de choses, et puis il nous fait quitter nos repères, et simplement il nous demande d'être disponible, juste prendre du temps, juste être là, quoi.
Tu as connu,
donc c'est un temps, vrai, c'est assez énorme ce qui se passe.
Ça, c'est vraiment une époque un peu spéciale pour moi, parce que j'attendais plus rien.
En même temps, il y a du mot.
Célébration. Voilà, Éphésiens, c'est l'équivalent dans le Nouveau Testament de Josué.
C'est même pas, je ne tiens pas dans la haine.
Ça nous parle d'illuminer les yeux. C'est comme ça qu'on voit l'héritage. Et notre église, c'est Philadelphie, c'est 3 fois voir. On est une église de voyants. On est appelé à voir les choses spirituelles. On est appelé à voir les choses célestes. Gabriel Martin, dans son dernier message, aussi même, il a dit regardez aux choses invisibles. Et Seigneur est en train de nous faire quitter le visible. Ça s'effrite comme des vieilles choses, ça n'a plus d'intérêt. Voilà,
le prof regarde
aux choses invisibles. Et on devient passionné par les choses invisibles.
Et encore une fois, vraiment,
il illumine les yeux de nos cœurs. Donc c'est assez extraordinaire. Et plus on va connaître Jésus dans le lieu très saint à Kippour,
on est content de t'avoir.
Toujours est-il que voilà, j'ai commencé à vivre selon mes propres codes de conduite. Pour moi, l'Église, c'était devenu quelque chose
extraordinaire de rédemption pour la création, pour Israël, pour les nations. Et il veut nous conduire à cette révélation, mais aussi à ce qu'on prenne la mesure de ce que ça veut dire. Je crois qu'il veut impacter les nations en nous. Parce que tabernacle, c'est la fête des nations.
Quand tu es arrivé devant,
c'est des nations toutes ensemble. Je crois qu'on ne va pas rentrer à Nèvres pour ce voyage, mais ce sera toujours pareil. Je crois que Josué va être propulsé dans les nations. Pour les nations.
Ce que je
ne sais pas où ça va nous mener, mais ça va être. On ne sait pas où. Franchement, on ne sait pas.
En toute simplicité avec toi.
J'ai commencé à fréquenter des gens.
Ça commence le 24.
Très
après,
il
n'y
a rien d'autre. Ils sont alors, par la parole.
J'ai fini par.
Du 24 au
dans des mauvais quartiers.
Tabernacle, c'est.
Là où vraiment ça a pris un tournant dans ma vie, c'est que j'ai vraiment pris une claque.
C'est le tabernacle du Dieu vivant. Je crois que le Seigneur va nous conduire une révélation aussi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être le tabernacle du Dieu? Collectivement et individuellement, le tabernacle. Cette semaine, je lisais Juge 5
avec
être le tabernacle de Dieu, la puissance de Dieu en nous.
Entendre parler de la misère à l'autre bout du monde, c'est une chose. Être confronté à la misère juste à deux pas de chez toi, c'est vraiment une autre. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a retourné un peu dans
quelque chose d'énorme dans tout ça.
J'ai vu des choses auxquelles j'étais pas habitué, j'ai vu des choses que j'aurais jamais voulu voir.
Il va nous appeler aussi certainement dans ces temps ensemble. Parce que Éphésiens, c'est aussi le
et
ensemble.
D'une manière un peu paradoxale, j'étais dans une situation un peu délicate avec ma famille.
C'est une nouvelle dimension d'intercession, certainement, élargissement et de proclamation pour Israël, pour la France, pour toutes les nations que le Seigneur nous mettra à cœur, pour tous les sujets que le Seigneur nous mettra à cœur.
Je me suis rendu compte que l'amour. L'amour parental, c'est pas forcément quelque chose de commun.
Vraiment pas à quoi on s'attend, mais il nous attend au rendez-vous. C'est un rendez-vous.
Et donc pour moi, du coup, ça a mis une claque vraiment à ma spiritualité aussi. Je me suis dit, en fait, finalement,
parce que ça, c'est la lettre
Dieu, la religion, c'est vraiment quelque chose
qui sera pleinement réveillé en nous.
Et voilà. Vraiment. Donc c'est facile de croire.
Je sais pas où on va, mais je sais juste qu'il y a quelque chose de grand devant nous.
Et quand tout va bien, c'est facile.
On doit lâcher le vieux, les amarres, le connu, l'expérience, même bien. On lâche tout et on est disponible pour.
C'est vraiment la mentalité que j'avais à cette époque-là. Je me suis dit, vraiment, si Dieu existe, comment ça se fait qu'on a tellement qui se marquent,
qui sont pas
comment ça se fait que ces gens témoignent tellement de l'amour des chrétiens? Je condamnais beaucoup les chrétiens sur leur attitude envers ces gens-là.
Ça bouge pas.
Et du coup, c'est là que je me suis fait ma propre religion. J'ai jamais renié Dieu et j'ai toujours eu cette conviction que Dieu était vivant. Donc,
un de mes premiers souvenirs de
Dieu existait.
C'est autour de la table avec la famille.
Mais j'étais pas convaincu de son amour pour nous.
Tu prends une place un peu au coin de la table, un peu retirée. Il avait l'air timide. Il avait l'air timide. Bien sûr. Tu parlais pas trop. Mais dans l'esprit.
Ouais, donc ça a été une période un peu sombre dans ma vie, vraiment.
Aujourd'hui, on voit dans le naturel ce que j'ai vu ce sujet-là, dans l'esprit.
Je me souviens d'une phrase à l'école du dimanche qui m'a souvent.
Quand tu parlais de ce rencontre avec Pierre
Congarmi,
c'est de l'amour.
L'enseignante nous avait dit que pour elle, l'enfer, c'était pas forcément quelque chose, il y avait des flammes partout avec.
Dans ta vie.
Truc terrible, elle nous a dit de l'enfer, pour moi c'est juste l'absence
après,
de Dieu.
Tu as perdu le feu et tout ça. Et
pour l'avoir vécu,
Nadu, en fait, je
être dans des milieux où Dieu est totalement
crédit,
inexistant pour
Nadu,
les gens, c'est vraiment
dit,
quelque chose
parce
de.
Parce qu'il a rencontré l'amour de Père, mais il n'était pas encore.
C'est vraiment quelque
transformé.
Chose de pourri.
Et c'était juste. Mais
donc
ensuite,
voilà, j'ai fait mon
fait,
chemin
en
11 ans.
Tu t'es mis au travail.
Mes choix comme ça venait.
Tu as laissé le Saint-Esprit te guérir.
En me disant voilà,
tu étais à l'écoute. Tu as fait les choses difficiles. Tu as fait les.
Si Dieu est comme
les
ça,
mauvais
bah moi,
choix,
je ne vais
mais
pas
ensuite,
le suivre, ça ne m'intéresse
choix.
Pas. Et j'ai commencé à essayer de prendre la place de Dieu dans la vie des gens. Je me suis dit, je vais être quelqu'un de bien, mais à ma façon, je vais aider les gens à ma manière.
Mais vraiment là, tu es un homme transformé. Donc bravo et chapeau.
Alors tout le monde m'aimait bien, j'étais un peu le gars sympa
travail,
du coin, le mec qui n'avait
pas
une vie pourrie et qui justement, voilà, souvent
ouais,
disait toi t'as un truc en plus et machin, enfin
mince,
toi tu connais pas la galère, toi tu sais pas ce que c'est que d'avoir
lâché,
des machins, mais bon c'est cool d'être avec toi parce que t'es quelqu'un de positif, à l'époque je l'étais pas du tout, donc c'est vous dire les gens avec qui je traînais. J'ai fini par atterrir dans un bar qui s'appelait le Rock Café, je sais pas, ça m'étonnera beaucoup que certains d'entre vous connaissent. C'est un bar qui est surnommé la boîte à cafards par la police de Colmar. C'est vous dire qu'est-ce que c'est bien fréquenté. Donc dans cet endroit-là, j'ai passé quelques.
Je veux juste encore ajouter, on a dit que tu es quelqu'un de vrai. Et c'est vrai.
Allez, on va dire presque.
Tu es quelqu'un d'honnête.
Et c'est là que j'ai croisé des gens.
Tu es quelqu'un d'honnête, tu ne caches pas les choses. Et ouais. Ça, c'est une qualité, mais incroyable. Et Dieu honore ça. Il aime les gens qui sont vrais, qui sont honnêtes. Alors merci pour qui tu es.
Alors c'était vraiment un lieu qui était particulier dans sa façon d'être sinistre et sombre. J'ai vu des drogués, j'ai vu des hooligans, j'ai vu des gens qui prétendaient avoir tué d'autres gens. J'ai vu des prostituées, j'ai vu des trucs vraiment pas clairs et je me suis dit waouh. Et à un moment donné, je me suis dit voilà. J'ai toujours eu dans mon de mon adolescence jusqu'à il y a peu l'aptitude incroyable de me mettre dans des situations folles. Et je me souviens d'un moment, le maître dit « Mais Lucas, comment ça se fait que du point de départ où t'es parti, t'arrives dans un endroit comme ça où tout est tellement différent de qui tu es ?» Et voilà, je fais à un moment donné, c'est pas la vie que je souhaitais, c'est pas la vie que je souhaite pour l'avenir. Et un jour, Tim est venu et nous a dit « Venez les gars, venez, on va à l'église, il y a un groupe de jeunes à Guévillard qui est cool. » Donc on a accompagné Tim, j'y suis allé sans grande conviction. Je ne sais plus si c'était la fois dont je vous parlais, je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième. Toujours est-il que c'était une des premières fois que je suis venu ici. Et je me souviens très bien de cette fois-là parce qu'on était accompagné de Marion et de ma cousine. Et ce jour-là, on a regardé un film qui s'appelle Furious Love. Je ne sais pas si vous voyez lequel je parle. Un film où un type prend une caméra et filme vraiment des miracles. Des actes d'amour de la part de Dieu, et vraiment c'est juste un film, je me suis dit, ouh, ça va encore être un film un peu niais, et puis pff, ils vont encore essayer de nous bassiner avec, j'étais vachement prétentieux, je me rends compte maintenant. Je me suis dit, c'est encore un truc où ils vont nous dire que Dieu est bon et patati patata, mais moi j'ai vu la misère du monde et Dieu n'est pas si bon que ça, sinon ces gens-là, ils vivraient pas ces choses. Puis le film a démarré, je me suis dit d'accord, en fait non. Et je crois que c'est à ce moment-là, j'ai vraiment prié aussi. J'ai pris plein de claques dans ma vie en fait, et là j'en ai pris une autre. Dans ce film, je vous encourage vraiment à le voir. On voit vraiment des gens transformés par juste vraiment l'amour de Dieu. Et vraiment, on voit de manière concrète ce que l'amour de Dieu produit. Donc, je résume très vite fait. Je me suis dit, waouh, ce film est trop stylé. Waouh, machin, c'est cool. Mais, Dieu ne touche que ceux qui sont déjà, d'une certaine façon, intéressés par lui. Et Dieu a répondu tout de suite. On a eu un temps de prière par la suite. Tu permets que je raconte cette histoire ? Merci. Marion n'était pas convertie quand elle était venue à ce moment-là. Et on a eu un temps de prière par la suite. Et je me souviens avoir vu Marion complètement touchée par Dieu. Et... ouais, et ça a vraiment été un moment où qui a tout remis en... qui a tout détruit et tout remis en question en moi-même. J'ai vu quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu tout d'un coup le rencontrer d'un coup, d'un seul. Et ce que j'avais vu dans le film quelques minutes avant, je l'ai vu pour de vrai juste après. Et c'est comme si Dieu m'avait mis devant le truc en disant « Tiens, t'y crois pas, ben maintenant regarde. » Et ouais, j'ai vraiment vu Dieu toucher ma belle-sœur aujourd'hui. Et si je peux vous dire un truc, c'est que Marion a vraiment un appel de fou sur sa vie, parce que la façon dont les choses se sont déroulées pour elle, c'est vraiment un truc de dingue. Trop fier. Voilà, donc ça a été... Marion a été un moment important dans ma vie, avec Dieu, et puis à partir de là a commencé tout un cheminement, tout un questionnement. On a commencé à venir plus régulièrement au groupe de jeunes, on allait à un groupe biblique avec ceux qui se souviennent des tendons, on était entre gars, on passait des temps ensemble, c'était convivial, on se marrait bien. Thomas et Tim ont fini par se faire baptiser, moi j'étais pas prêt. Je me suis dit ça a l'air cool, mais j'étais pas encore convaincu, je voulais être complètement convaincu et nettoyer tout ce qui était pourri dans ma vie pour pouvoir accéder à cette vie avec Dieu. Je me suis dit, si maintenant je m'engage, je veux m'engager complètement et pas juste avec un pied. Et donc j'ai assisté au baptême de Thomas et Timothée, je me suis pas fait baptiser en même temps qu'eux, mais je continuais à cheminer de mon côté. À cette époque-là, j'étais en couple avec une fille qui était vraiment pas claire. C'est pas cool ce que je dis, je sais. Elle n'était pas claire spirituellement et vraiment Dieu m'a révélé que voilà, c'était une entrave dans ma vie, tout simplement. Et c'était à partir de là un moment plutôt difficile. Je me suis retrouvé devant des choix à faire. Et puis vous savez, quand vous priez et que vous dites « Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie et je veux vraiment que tu prennes les commandes de ma vie », mesurez l'impact que peut avoir cette prière. Dieu m'a dit, si tu veux cette vie maintenant, tu fais ces choix et tu fais ces choix maintenant. Et je me suis dit, waouh. J'ai pas fait ces choix tout de suite. C'était un peu difficile. J'ai eu du mal. J'ai continué de venir à l'église. J'ai continué de chercher Dieu. Et je dis, Seigneur, je veux ça. Mais j'ai pas le truc qui fait que j'arrive à accéder à ça. Et puis un jour, j'ai croisé la route d'un homme qui s'appelle Pierre Cranga. En fait, c'était un culte, il était là, et puis il donnait une formation. Et puis mon père m'a dit, tiens, fais cette... J'étais en période entre deux contrats, donc j'étais au chômage momentanément, et j'avais le temps. Mon père m'a dit, si tu veux, tu peux y aller, ce gars est super. Je suis bon, on peut y aller, ça coûte rien. J'y suis allé. Je vais essayer de résumer pour pas trop prendre de temps, mais... voilà, dans cette semaine, j'ai vraiment rencontré Dieu. J'ai commencé la semaine, Pierre nous a demandé qu'est-ce que Dieu représente pour vous. J'ai dit, pour moi, Dieu, c'est un créateur, c'est quelque chose au-dessus de tout, c'est quelque chose, on doit le respect, on doit ci, on doit ça. Voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Fin de la semaine, je dis. Qu'est-ce que Dieu représente pour vous? J'ai dit Dieu, c'est mon père, c'est mon papa, c'est celui qui m'aime. Et on arrive au point de mon message. Et ce que je voulais vous raconter ce soir, c'est pas juste mes erreurs et vous dire voilà combien ma vie était bizarre ou un peu spéciale par moment. Pour moi, il y a un point essentiel. Je vais revenir à des fondamentaux un peu. On dit souvent comment mener une vie de chrétien. On donne des clés. On donne souvent. Technique pour suivre Dieu. Ce que j'aimerais aborder avec vous ce soir, c'est vraiment pourquoi suivre Dieu, quelle est la raison. Et moi, je vais vraiment vous partager avec vous pourquoi j'ai choisi de suivre Dieu. Pendant toute cette semaine avec Pierre, j'ai vraiment été. Ça a vraiment été une semaine où Dieu a démoli tout, toutes mes idées reçues, mes préjugés sur qui il était. Et vraiment, j'ai découvert ce que c'était que cet amour inconditionnel, moi qui pensais qu'il fallait... Vous savez, on évolue dans un monde où il faut travailler pour mériter son salaire, rien n'est dû, enfin rien n'est gratuit. Et vraiment, on évolue dans un monde où si on veut quelque chose, il faut se battre pour l'avoir, il faut le mériter, on n'a rien sans rien... Et là, tout d'un coup, j'ai été confronté à quelque chose de juste complètement gratuit. Et juste le fait que Dieu me dise, voilà, je ne t'aime pas pour ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, je t'aime tout simplement parce que tu es mon fils et que c'est comme ça, point barre. Ces mots ont résonné en moi et ont tout détruit et ont permis de mettre quelque chose de nouveau dans mon cœur. J'aime bien cette citation de Churchill qui dit « Dieu, c'est quelqu'un qui nous connaît vraiment, mais qui nous aime quand même. » Et c'est vraiment ça. J'ai compris que durant toute mon adolescence, j'ai essayé de plaire aux gens. Je me suis dit, voilà, je me construis un espèce de rôle où voilà, je pourrais être accepté. Et tout d'un coup, le fait de juste pouvoir être moi-même, c'était cool. C'est sympa. Pendant mon adolescence, je disais souvent, de toute façon, c'est les gens me critiquent, j'ai qu'à dire que je suis ce que le monde a fait de moi. Et puis voilà, ça leur clouera le bec. Aujourd'hui, je peux dire que je suis ce que Dieu a fait de moi, et vraiment juste, waouh, c'est vraiment quelque chose de cool. J'ai compris aussi que j'ai réalisé cette dimension de l'amour de Dieu. Dieu ne ressent pas juste de l'amour pour moi, Dieu est amour pour moi, et vraiment ça, c'est quelque chose d'énorme. J'ai pris conscience qu'en fait, je trouvais Dieu injuste et lointain. Et je me disais que Dieu, de toute façon, il dit qu'il nous aime. Mais Dieu, il faut courir derrière lui, il faut le chercher. Et puis si on se plie pas en mille pour le trouver, on ne le trouve pas. Et en fait, à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'est pas moi qui avais cherché Dieu toute ma vie, c'est Dieu qui m'a cherché toute ma vie et qui m'a couru après et qui a créé des occasions, qui a créé des rencontres pour que je... puisse enfin accéder à son amour. Dieu m'a vraiment couru après. Chris Vallotton, j'aime beaucoup. Il dit un truc, Dieu c'est vraiment cet époux qui court après son épouse et qui la cherche et vraiment d'une manière très forte. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et donc, pour ceux qui m'ont connu avant et qui me connaissent maintenant, il y a eu un avant et un après. J'étais un peu inarrêtable sur le coup. Alors voilà. Je résume, je synthétise. Ma vie était nulle, j'ai rencontré Dieu, je me suis converti, je me suis fait baptiser. Alléluia, amen. Voilà. Et ça serait tellement cool si l'histoire s'arrêtait là. Mais non. Par la suite, j'avais vraiment un feu en moi, quelque chose de dingue. J'allais partout, je me suis dit, waouh, Dieu m'aime, je suis aimé, c'était tout nouveau pour moi. J'étais chrétien depuis longtemps, mais chrétien d'étiquette, et là j'étais plus juste chrétien, j'étais vraiment enfant de Dieu, c'était vraiment plus juste l'éternel Dieu des armées, c'était vraiment juste, mon papou à moi. Enfin, c'était, voilà, c'est vraiment ça. Ça paraît ridicule, mais c'est tellement, enfin, se sentir aimé et puis dans les bras de Dieu, c'est vraiment là où je veux être. Et voilà, j'étais rempli d'un feu nouveau que je connaissais pas et que tout d'un coup j'avais qui s'emparait de moi. Je me suis fait baptiser. Et par la suite, j'ai repris le cours de ma vie, d'une manière quand même complètement différente. Mais j'ai perdu un peu de ce feu dans les épreuves. Les soucis de la vie, j'ai pas toujours fait les bons choix, j'ai perdu d'une certaine façon ce que j'avais reçu. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience de quelque chose. C'est que l'amour se cultive. Et ce que je vous demandais ce soir, c'est l'amour se cultive, oui, mais comment ? Quand j'ai rencontré Dieu, c'est vraiment... Qui a déjà été amoureux parmi vous ? Moi, oui, beaucoup. Quand on est amoureux, on veut savoir tout de la personne qu'on aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On veut passer du temps avec la personne qu'on aime. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Voilà comment on se cultive l'amour. Passer du temps avec la personne qu'on aime et chercher à la connaître davantage. Et généralement, plus on connaît cette personne, plus on l'apprécie. C'est pour ça que c'est important de vraiment prendre du temps pour lire la parole de Dieu. J'ai perdu de mon feu et pour ne plus que ça recommence, je m'efforce, je mets un truc tout bête en pratique, c'est que je lis maintenant ma Bible tous les jours, sauf des fois où vraiment je suis fatigué, mais tous les matins, une première chose que je fais, c'est que je lis ma Bible. Je comprends pas toujours tout, des fois je la lis d'un œil, je mets du miel dessus, du café. Enfin, c'est pas seulement juste pour la lire, mais je sais vraiment que quand je lis ma Bible, c'est vraiment que je me lève le matin, je me mets tout de suite dans cet état d'esprit de temps avec Dieu. Je comprends pas tout, mais je sais juste que je peux ressentir la présence de Dieu, et la première chose que je ressens, c'est pas la mauvaise atmosphère du travail, c'est pas le planning de la journée, c'est pas qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui, c'est juste Dieu, tout simplement, qui il est, et j'en apprends un peu plus sur lui chaque matin. Les rendez-vous avec Dieu, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger. L'amour se cultive de plusieurs façons. Et j'ai appris ça aussi. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Into the Wild, où la conclusion de ce film, je ne vais pas spoiler, mais une des conclusions de ce film, c'est que le bonheur n'est réel que partagé. Et je suis à 1000% d'accord avec cette déclaration. L'amour se partage. J'ai reçu l'amour de Dieu d'une manière très intense. Ce que j'ai compris par la suite, c'est que l'amour de Dieu, on ne le reçoit pas juste pour le recevoir. On reçoit l'amour de Dieu pour le donner en retour. Si vous voulez faire augmenter votre... Si vous ressentez l'amour de Dieu et si vous voulez que ça croisse, que ça grandisse davantage, le meilleur moyen de faire croître l'amour, c'est de le partager. Donnez et vous recevrez, je ne vous apprends rien. Et j'aimerais, il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que l'amour, c'est pas réservé juste à une élite ou juste à une catégorie de personnes, c'est pas juste un appel pour certaines personnes qui ont un cœur tendre, non, c'est pour tout le monde, c'est aimez-vous les uns les autres, c'est exhortez-vous les uns les autres, et si maintenant je regarde dans ma Bible, avec le téléphone, ça ira plus rapidement, Si je tape les versets qui sont, si je fais une recherche, je vous encourage à le faire pour ceux qui ont la Bible version, tapez ce que dit la Bible à propos de « aimez-vous les uns les autres », vous verrez la quantité de versets qu'il y a marqués dessus. Et ce n'est pas juste « René, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Francis, tu aimeras ton ennemi » ou « non, c'est tous « aimez-vous les uns les autres ». Quand Jésus dit ça, il inclut tout le monde dans cette déclaration. Et c'est la leçon que j'ai pu tirer de mes épreuves. Quand j'ai cessé de donner de l'amour aux gens, l'amour que je ressens en moi-même diminuait avec. Plus vous donnez de vous-même, plus vous donnez de votre amour, plus vous donnez de votre cœur, plus vous vous sentirez bien. Moins vous donnez d'amour, moins vous donnez de vous-même, moins vous vous sentirez bien. Jusque-là, c'est pas compliqué. L'amour se cultive en se partageant. J'ai eu cette pensée que Dieu nous donne cet amour comme un enfant. Et est-ce qu'il y a des parents dans la salle ? Ah ouais. Il n'y en a pas. C'est une vraie question. Faut le dire si je vous endors. Hein. Je plaisante. Être parent ne signifie pas juste avoir un enfant. Je ne fais pas un enfant et je suis parent pour toute la vie. Non, ça ne se résume pas à ça. La vie de parent, je ne suis pas parent. Je n'ai pas de leçons à donner, bien sûr. Mais j'ai vu mes parents nous élever. Et être parent ne se limite pas en enfant. Être un parent signifie en prendre soin. Et signifie le nourrir. Sinon, il meurt. Ça tombe sous le sens. Là où je veux en venir, c'est... Ça va venir. Pourquoi je raconte ça ? C'est vraiment... Ce soir, je vais vous inviter à faire un peu une introspection. C'est dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? Une fois, j'ai lu un livre sur lequel le mec disait « On devrait être à même de pouvoir répondre à cette question. Êtes-vous réveillé ? Êtes-vous en feu ?» On devrait pouvoir être à même de répondre à cette question tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, oui, complètement oui. Je me suis posé cette question, ça a été non. Je me suis dit « Mince, c'est un problème. » Alors je vous invite vraiment à vous poser cette question-là. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce soir ? Êtes-vous amoureux ? Êtes-vous enflammé ce soir ? Ou êtes-vous juste fatigué ? Êtes-vous juste Dieu même ? Qui est en feu ? Qui est froid ce soir ? On ne va pas lever la main. Sentez-vous. Voilà, c'est pas le but. Je vais citer Chris Walton, que j'aime beaucoup, qui dit que si tu n'as plus cette paix en toi, fais demi-tour et regarde à quel endroit tu as laissé Jésus. J'aime cette phrase. Je l'ai mise en application et Jésus m'a montré les endroits, les points de ma vie où ça n'allait pas. L'amour, ça se nourrit. L'amour, c'est la clé de tout. Et pour moi, l'amour, c'est pas juste une option, c'est pas facultatif. Ça paraît facile de dire oui, l'amour, c'est la clé de tout. Ça fait un... Dans le monde actuel, quand on parle de l'amour, on s'imagine des cœurs, on s'imagine des films avec Channing Tatum, j'en sais rien. Désolé. Mais pour moi, l'amour, non, c'est pas ça. On a tendance à minimiser l'amour, on a tendance à réduire l'amour à quelque chose de gnangnan. Et puis, non, pour moi, l'amour, c'est vraiment une force, c'est vraiment quelque chose qui déménage. Pour moi, l'amour, c'est la croix. L'amour, c'est des gens qui marchent, qui ne pouvaient pas marcher, des gens qui voient et qui ne pouvaient pas voir. Et vraiment, l'amour, pour moi, c'est tout ça. Et pour moi, l'amour, il faut le réveiller maintenant. Ça paraît facile, mais c'est facile. Enfin, c'est facile. Si ça paraît trop facile dans l'idée, c'est parce que... Je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais il y a un Dieu qui est grand, qui existe, et ce Dieu-là nous aime, ça paraît tellement simple. Mais si ça paraît tellement simple, c'est parce que nous sommes faits pour ça, tout simplement. Nous avons été faits pour lui, par lui. L'amour se nourrit et... J'ai lu un jour cette phrase. Un chrétien est un homme ou une femme qui a deux chiens dans son cœur, un chien noir et un chien blanc. Quel chien ? Ces deux chiens mènent un combat... Ces deux chiens mènent un combat perpétuel constamment dans le cœur de la personne. Et quel chien gagne à l'issue du combat au final ? La réponse est toute simple. Le chien qui gagne, c'est celui que tu nourris. Je veux vraiment vous inviter à vous poser la question, qu'est-ce que tu as nourri dans ta journée, qu'est-ce que tu as nourri dans ta semaine ? Est-ce qu'Agathe est là ce soir ? Non ? Non ? Non. Je voulais faire une référence à un film. Il y a un film qui s'appelle Pirates des Caraïbes où il y a un navire dedans qui doit toujours être... piloter, enfin bref, dans le film, ils disent le Hollandais a besoin d'un capitaine, il doit toujours avoir un capitaine. Le cœur, c'est pareil. Le cœur a besoin d'être nourri, l'être humain a un besoin d'adoration, et quiconque vous dit le contraire ment. J'ai croisé beaucoup de gens qui disent « Moi, je crois pas en Dieu, j'ai pas besoin de Dieu », c'est faux. Les gens qui me disent « Je crois pas en Dieu, j'ai pas de Dieu », et puis quand tu vas chez eux, ils ont des posters de Cristiano Ronaldo partout, où ils ont une super voiture qui bichonne toute la journée. Je connais plein de gens comme ça, et j'en fréquente régulièrement, qui ne croient pas en Dieu, parce que Dieu, c'est quelque chose de ridicule, mais on a tous un Dieu quelque part, et si vous cherchez bien, tout le monde a un Dieu, que ce soit notre propre personne, une star, une célébrité, un concept, j'en sais rien. Mais toujours est-il que nous avons en nous ce besoin d'adoration, et ce besoin... qui est vraiment présent de remplir notre cœur de quelque chose. Et ce soir, je te demande vraiment de quoi est-ce que tu remplis ton cœur. Pose-toi la question, dans quel état d'esprit es-tu ce soir ? Et fais un retour en arrière et demande-toi sur quoi tu as concentré ton attention ces derniers temps. J'aime bien cette image de Pierre qui rejoint Jésus sur l'eau. J'ai besoin de marcher, je suis désolé. Les disciples sont dans la barque, il fait moche, il pleut, j'aimerais pas être à leur place. Jésus arrive, marche sur l'eau. Pierre dit, c'est toi Jésus ? Oui Pierre, rejoins-moi, super, j'arrive. Je résume ça très vite. Pierre sort de la barque et Pierre réalise à ce moment-là un acte que personne d'entre nous, je crois, n'a encore fait jusqu'à maintenant. Il marche sur l'eau à la rencontre de Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment cool. Pierre a réussi cet acte extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il avait son regard focalisé sur Jésus et qu'une envie, c'était de rejoindre Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pierre s'est mis à couler et à prendre peur. Ma vision de la chose, c'est que Pierre était focalisé sur Jésus et n'avait que cette soif, c'était de le rejoindre sur les eaux qui étaient vraiment tumultueux à ce moment-là. Et je pense qu'à un moment, à mon avis, Pierre a commencé à prendre l'eau, à boire la tasse, à partir du moment où, au lieu de regarder Jésus, il a commencé à regarder un peu ce qui se passait autour de lui et de voir qu'en fait, il n'était plus dans son bateau, mais sur l'eau, et il a pris peur et s'est mis à couler. Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'avoir vécu personnellement, on commence à être perturbé dans notre vie spirituelle quand on se focalise trop sur les situations et non sur Dieu. J'ai fait un dessin sur ça. Et vraiment, c'était une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. C'est peu importe la situation, n'oublie pas que dans la tempête, Jésus marcha paisiblement. Je vous invite vraiment à faire attention à ce qu'on met dans nos cœurs. Je ne suis pas là en donneur de leçons, je vous partage juste la façon dont je vis les choses avec Dieu et comment je ressens tout ça. Hier soir, on était au groupe de jeunes et c'était cool. Ah là, non, j'avais... Hier, j'étais chaud. Et encore aujourd'hui, je suis chaud. Il y a 3 heures, j'étais en plein cagnard sur un chantier en train de faire un coffrage tout seul. C'était nul, c'était pénible, mais j'ai du peps encore. Hier soir aussi, et j'ai eu une semaine un peu chargée, mais toujours est-il que j'ai la forme, j'ai le feu ce soir. Et nombreux sont ceux qui m'ont dit « Mais c'est bizarre de te voir comme ça, on t'a pas vu comme ça. » Mais pourquoi ? Parce qu'on m'a demandé de faire un message lundi. Et c'est ce qui m'a invité à focaliser tout. J'ai fait cette introspection et ça m'a permis de renouer avec tous ces souvenirs, tous ces moments passés avec Dieu. Et juste d'avoir passé ces moments de réflexion à me rappeler de qui est Dieu, juste d'avoir pris le temps de me rappeler de qui est Dieu et tout ce que j'ai vécu avec lui, juste ça a suffi à me mettre le feu, le sourire et la patate. Et pourtant, cette semaine était nulle, mais vraiment, je suis content d'être là, je suis content de vous voir et je peux vous dire que je vous aime parce que vraiment, c'est le cas. Donc voilà, si on fait attention à ce qu'on met dans son cœur, ça peut vraiment changer les choses. L'amour, pour moi, c'est une puissance. L'amour, c'est ce qui est la base de tout. Je vous invite à reconsidérer l'amour comme vraiment une chose de... pas juste un sentiment, mais quelque chose qui va bien au-delà. On parle dans cette église, on a la chance d'avoir un ministère de guérison et chez les chrétiens charismatiques, on parle souvent de miracles et tout ça. Les premiers miracles que j'ai expérimentés personnellement, de très près, ont eu lieu à cet endroit précis. Et je m'en réjouis, je suis trop content. J'ai beaucoup prié pour la guérison. Et on prie avec une équipe pour la guérison et c'est vraiment une chance qu'on a, je me réjouis de ça. Et je sais qu'on est à l'aube de grandes choses. Et je sais que l'équipe qui était allée en ville cet après-midi ont impacté les gens, même d'une façon qu'ils n'ont même pas conscience. Mais voilà, la guérison c'est quelque chose qui me touche vraiment et puis c'est pour ça que je dévie un peu. Je vais revenir à mon truc, mais... La première fois que j'ai vu un miracle instantané et quelque chose de se produire, quelque chose qui s'est vraiment produit quand on a prié, c'est j'étais en train de prier, j'étais avec Elisabeth Pierre-Elien, c'était une fin de culte. On avait prié pour plusieurs personnes et c'était rien passé. On avait prié le dimanche d'avant, la semaine d'avant, et c'était rien passé. Et voilà qu'on prie pour la dernière personne de la journée et Dieu me met cette pensée à l'esprit. Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu pries ? Pourquoi tu pries pour la guérison ? Est-ce que tu pries pour voir quelque chose de cool ? Est-ce que tu pries pour voir du surnaturel ? Ou est-ce que tu pries pour voir la personne guérir ? J'ai eu honte de mon comportement du moment. Et j'avoue que sur le coup, j'avais tellement cette soif de surnaturel, de choses, que je voulais juste voir un miracle. Dieu m'a recentré sur la raison pour laquelle je devais prier. Et avant de prier pour la guérison, je me suis d'abord concentré à aimer la personne. Et c'est là que la personne s'est relevée et dit « Je ne sens plus rien, je n'ai plus mal et je suis guéri. » Je prierai toute ma vie pour la guérison, mais je n'ai jamais guéri personne et je ne guérirai jamais personne. C'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui guérit. Moi, mon seul boulot, mon seul taf, c'est juste d'aimer les gens pour qui je prie. On prie souvent pour la guérison et on voit pas toujours des miracles. Ça arrive. C'est pas une défaite en soi. Votre travail, notre travail, c'est d'aimer les gens pour qui on prie. Et ça s'arrête là. La guérison appartient à Dieu, pas à moi. C'est pas moi qui détient le pouvoir surnaturel de guérir les gens. Quand vous priez pour quelqu'un et que le miracle ne se produit pas, ce n'est pas forcément une défaite. Non, pas du tout. Et même, la vraie victoire, c'est de voir des gens qui s'aiment et qui prient les uns pour les autres. Déjà, juste ça, c'est une victoire. J'ai encore du temps. Je vais raccourcir. ce que je veux vous encourager à faire ce soir, c'est vraiment à réveiller cet amour en vous, et vraiment parce que c'est un impact sur les gens. Et l'amour, comme disait Paul, nous emmène dans des endroits qu'on n'aurait jamais pu, où on n'aurait jamais pu aller à faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire. Et je ne sais pas si, bon, je pense que tout le monde a un smartphone ici. Pour ceux qui ont un smartphone, vous savez que. Pour ceux qui ont un smartphone, vous savez que moins on a de batterie, moins on peut utiliser d'applications. Pour nous, c'est pareil. Moins on a d'amour, moins on est à même de faire des choses. Alors, je ne vais pas développer maintenant plus. Je vais juste vous... Là où je veux en venir concrètement, c'est bien beau ce que je dis. L'amour, c'est bien. Mais concrètement, ça consiste en quoi ? Je vous invite vraiment à faire juste des choses simples. Il y a déjà cette histoire d'introspection. Et j'ai compris que l'amour, c'était juste aussi juste aimer les gens, c'était juste se rendre aimable. Vous pouvez être des gens aimables juste par un sourire. Je disais à ma petite sœur l'autre jour, brosse-toi les dents, c'est important, ton sourire, c'est un outil de communication. Je vais être transparent avec vous, j'ai une hygiène dentaire qui est très suivie. Je fais attention à mes dents, pas parce que voilà, c'est pour être beau ou machin. Non, c'est, je veux juste être à l'aise quand je souris, parce que je sais que juste un sourire, ça peut changer beaucoup de choses. Vous pouvez être quelqu'un de joyeux si vous venez à l'église comme ça. C'est fini, je me casse. Vous pouvez avoir de la joie dans votre cœur. La meilleure manière de démontrer cette joie qu'il y a dans votre cœur, c'est juste par un sourire. C'est tout bête, mais ça commence par là. Que t'aies les dents jaunes, que t'aies pas de dents, on s'en fout, souris tout simplement, c'est tout. Je vous dis ça, c'est pas juste une théorie comme ça. C'est, je vous raconte les choses qui m'ont conduit à la conversion. Il y a des choses toutes simples comme demander à une personne comment est-ce que tu vas aujourd'hui. Juste prendre le temps d'écouter les gens, c'est la plus belle démonstration d'amour, je pense. Je me souviens de Pierre, une fois qui m'a dit j'avais tendance à me mettre au bout de la table pendant la formation, me cacher, j'aimerais qu'on ne me pose pas trop de questions, s'il vous plaît. Et Pierre m'a dit Lucas, mets-toi en face de moi, j'ai envie de te voir. On développe, déjà là j'étais un peu surpris, on développait sur des sujets et tout le monde parlait et moi j'étais là, oui bon, ça m'intéressait beaucoup, j'étais passionné par le sujet mais j'avais pas envie de donner mon avis. Et puis Pierre tout d'un coup m'interpelle et me dit, Lucas, dis-moi ce que tu penses de ça, j'ai envie de savoir ton avis sur la question, ce que tu penses m'intéresse. Ça paraît tout bête comme ça mais pour la première fois j'avais l'occasion de parler librement et de dire ce que je pense et d'être juste d'avoir ce sentiment d'être écouté, ça change beaucoup les choses et c'est vraiment ce qui m'a bouleversé chez cet homme. Et le fait d'être... Quand on dit que Dieu nous appelle par notre nom, c'est vraiment ça. Dieu, c'est quelqu'un de grand, c'est quelqu'un de puissant, mais Dieu te connaît. Je vais raccourcir, je ne vais pas faire plus long. Ce que je veux ce soir, c'est juste revenir à ces fondamentaux et vous encourager à, avant toute chose, chercher l'amour de Dieu, vivre l'amour de Dieu et qui plus est, le témoigner encore davantage. Parce que moi, c'est par un homme qui a cherché, qui a vécu l'amour, que vraiment, j'ai changé de vie, tout simplement. Et si je peux juste finir par un petit témoignage. J'ai eu la chance de partager le leadership du groupe de jeunes avec Timothée et Alana. Et pendant les groupes de jeunes, on a souvent des fois des nouveaux qui viennent et ce qui frappe les gens quand ils viennent au groupe de jeunes, c'est pas l'architecture, c'est pas la nourriture. Pourtant, on mange très bien au groupe de jeunes. D'accord. Je crois qu'il reste des restes dans le frigo. Non, souvent quand les gens qui viennent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent au groupe de jeunes et à qui on demande leur avis, une des choses qui revient le plus souvent, c'est ce qui m'interpelle, c'est l'amour que chacun se porte l'un envers l'autre. L'absence de jugement, c'est les relations que vous avez les uns envers les autres et c'est souvent ça qui frappe les gens. Et juste pour conclure, moi, c'est pas les actes, c'est pas les miracles. Les miracles m'ont juste permis de réaliser que Dieu existait et que Dieu était vivant. mais c'est tout. Enfin, c'est tout. Ce qui m'a amené à Dieu, c'est pas les miracles, c'est vraiment son amour. Donc voilà, je veux vraiment vous encourager à... Ça paraît simple, ça paraît bateau, mais c'est la base, c'est le début, c'est le commencement de toute chose. Et merci pour votre écoute. J'espère que j'ai pas été trop barbant.